quand je t'ai vu la première fois, Sylvie, c'est à Québec, sous l'air en partout gris, on s'est promis comme des enfants la vie, depuis je t'aime éperdument, Sylvie.
Alors, on vous l'avait pas joué celle-là parce que c'est la chanson favorite de Lise Ravary, la chanson favorite de Michel Louvain, n'est-ce pas, ma chère Lise? C'est celle que tu préférais.
C'est celle que je préférais et il faut que je vous dise pourquoi.
Oui.
J'étais pas particulièrement fan de Michel Louvain. Moi, mon idole à cette époque-là, c'était Pierre Lalonde. D'ailleurs, à l'âge de 5 ans, j'ai déclaré que j'allais le marier.
C'est
pas arrivé. Mais dans le cas de Sylvie, oui. J'avais même pas 10 ans quand c'est sorti. Et j'adorais cette chanson parce qu'elle me faisait voyager. J'étais jamais allée à Québec. Et pour moi, c'était une ville lointaine,
t'étais
exotique.
Où à ce moment-là? Tu étais où à ce moment-là?
J'étais à Montréal, sur la gare Maisonneuve.
OK, t'es une fille de Montréal, OK.
Oh oui, je suis une fille de Montréal.
Québec, là, c'était loin.
Oh, écoute,
là.
Les remparts, puis tout ça me faisait rêver.
Ah oui.
Et c'est pour ça que je m'en souviens avec autant d'émotion. Mais j'ai mon histoire avec Michel Louvain a duré plus longtemps que juste la chanson Sylvie.
T'as eu une histoire?
Ben non, pas comme ça. je l'ai interviewé une fois.
Ah oui?
C'est pas beaucoup d'habitude.
Ben, raconte-nous, puis moi je vais te raconter aussi une petite anecdote.
OK. Alors, je me rappelle plus pour qui je travaillais à ce moment-là, une pige, et on me dit d'aller interviewer Michel Louvain. Alors, j'ai senti comme, j'avais un petit papillon, parce que mon image à moi de lui, c'était l'homme parfait.
Oui.
Ça fait que c'est beaucoup ça.
Oui.
Et puis, il m'a accueilli dans le complexe où il habitait, sur la rive sud, et j'avais apporté avec moi, pour lui en cadeau, des photos de lui que mon beau-père, le photographe Gabi, avait pris dans les années 50.
Oh, ça a dû y faire plaisir, ça.
Oh, qui était content. Il est venu les larmes aux yeux.
Ben oui, je comprends.
Moi aussi. Et ça a été une entrevue, moi, je te dirais, pas difficile à faire, mais exigeante. Parce que...
Il fallait que tu te fasses violence. C'est ça pour garder ta distance journalistique.
Garder, oui, parce que tu sais, j'avais plus le goût de le prendre dans mes bras que d'autres choses.
Mais je comprends ça.
Personne n'est parfait sur la terre, puis je suis certaine que Michel Louvain l'était pas non plus. Mais les gens ont dit les bons mots, la classe. Pour moi, il définit le gentleman. Mais on oublie une chose peut-être, c'est que un chanteur, c'est aussi un musicien. Et Michel Louvain avait vraiment beaucoup d'affinité pour son métier de chanteur et de musicien. Pas juste qu'il faisait là avec cœur et ainsi de suite, mais il était bon. Puis quand on écoute ses chansons à son époque, vraiment crooner là, ben c'était l'équivalent québécois d'un Perry Como, de Andy Williams, et il y avait des formidables orchestrations de grands orchestres. Et moi, je pense que quand quelqu'un comme ça nous quitte, oui, il y a tout ce qu'on se rappelle de lui au niveau des émotions. Mais moi, pour moi, d'abord, c'était un musicien, un chanteur qui s'adonnait à vraiment aimer son public.
Oui,
pas faire à semblant.
Non, c'est ça. Ça revient.
Vraiment.
Alors, j'ai beaucoup de gens là qui, puis je m'en voudrais de pas le souligner. Vous me rappelez à quel point il a été important pour les Télétons. Hein, il a donné beaucoup de temps pour le téléthon de la dystrophie musculaire. Quelqu'un d'autre me parle d'un téléthon pour les enfants. Je sais pas si on parle du même. Puis j'ai beaucoup de gens qui l'ont connu au moment des télétons, qui ont travaillé avec lui au moment des télétons. La petite anecdote que je veux te raconter.
Oui.
Martine, ma tendre amoureuse depuis 25 ans.
Ouh.
25 ans, 3 enfants. D'ailleurs, son père est très malade actuellement, fait que j'ai une pensée pour ma blonde. Mais tout ça pour te dire que elle m'a raconté qu'à un moment donné, elle a commencé au bas de l'échelle, Martine, en télé, parce qu'elle est productrice, réalisatrice. Bon, elle commence au bas de l'échelle, elle s'en va faire un tournage, donc, chez Michel Louvain. Et tu sais, Lise, les gens qui sont connus, les vedettes, parfois, ils ont un visage public, puis en privé, c'est pas le même visage.
Oh, hein? Que oui.
Bon,
oh, que
on
oui.
se comprend, hein?
Oh, oui.
Et donc, moi, ce que je regarde souvent dans ces moments-là, c'est est-ce que la personne est la même en public, est la même en privé qu'en public? Et elle me racontait que Michel Louvain, non seulement avait été très respectueux avec le ou la journaliste qui était là, mais, comment dire, il s'était occupé de l'équipe technique. Ça va-tu bien? Puis souvent, moi, je regarde ça, c'est la relation de la vedette, entre guillemets, pas avec la personne qu'elle a intérêt à mettre de son bord. Là. Tu sais, t'as intérêt à être fin avec le journaliste ou la journaliste parce que tu veux qu'il te fasse un bon topo. Non, non, mais la vedette qui demande au preneur de son, qui demande au caméraman, qui demande à la technique, ça va-tu, êtes-vous correct, je peux-tu... Tu sais, ça, pour moi, c'est un signe d'authenticité. Et quand on dit que ce gars-là, Michel Louvain, était gentil, puis c'est un gars respectueux, puis un gentleman, c'est dans ces petits moments-là que tu le vois, que tu vois son vrai sens des valeurs. Tu me comprends-tu, Lise?
Oh, je te comprends tellement. Et c'est plate qu'on est obligé d'attendre que quelqu'un nous quitte pour souligner ces choses-là. Malgré, il y a eu tellement de témoignages d'amour, je pense, à son égard. Mais c'était vraiment un être d'exception.
Oui.
Vraiment un être d'exception. Puis, tu sais, je veux pas faire des comparaisons avec les chanteurs, les musiciens d'aujourd'hui, parce que les temps changent. Mmh. Mais en même temps, moi, quand je monte au plafond, je grimpe au plafond sur la tenue vestimentaire parfois de certaines vedettes des occasions, c'est toujours à lui que je pense. Hey, Michel Louvain, il n'aurait pas fait ça, lui.
C'est drôle parce qu'il y a un gars, je l'ai justement sous les yeux. Il dit, j'ai un auditeur, il dit, je travaillais comme installateur d'armoires. Lorsqu'il est venu acheter son condo au sanctuaire sur Van Horn dans les années 80, il est habillé d'un chic, même sur le chantier. Je l'ai jamais oublié. Et plusieurs personnes m'écrivent pour dire, ce gars-là, là, il y avait jamais un bout de cheveux qui dépassait. Il était toujours spick and span.
Impeccable.
Quelqu'un m'a dit même, il s'assoyait pas pour pas être frippé. Ça se peut. Pour pas avoir de plis dans ses vêtements. Alors, on te salue, Michel Louvain.
Ouais.
Et puis, merci pour ce que tu as fait. Et puis, bon voyage. Et puis, bravo pour tout ce que vous avez fait pour nous rendre la vie un peu plus belle. Passons à l'autre sujet maintenant, Lise,
oui.
si tu permets.
Oui.
Là, on n'est vraiment pas dans les mêmes eaux. On est dans un autre univers. Mais c'est un article de Zacharie Goudreau ce matin dans le Devoir où on parle notamment des femmes qui se font siffler, qui se font harceler dans la rue. Dans la rue, OK?
Oui.
Et je me suis dit, toi qui as quand même été aux premières loges du combat des femmes, t'as dirigé Châtelaine, je veux dire, c'est une revue très importante pour l'avancée des droits des femmes, pour l'égalité des femmes au Québec. T'es sensible à cet enjeu-là. As-tu vu les changements, toi, dans l'attitude envers les femmes dans la rue? Dans la rue, l'as-tu vu au fil du temps?
Écoute, je veux dire, bien honnêtement, moi, j'étais quelqu'un dans ma jeunesse qui a été beaucoup harcelé dans la rue. Je sais pas pourquoi. Il y avait quelque chose de moi qui devait plaire à ces gens-là. Et je trouve que comparé à aujourd'hui, oui, il s'en passe. Mais tu sais, des gars qui te sifflent dans la rue maintenant, puis qui te demandent qu'est-ce que tu fais pour une pièce, ou qu'est-ce que tu manges pour être belle de même, ou ce genre de trucs-là. Je veux dire, c'est plutôt rare maintenant. C'était un fléau dans les années 70, surtout que les gars s'étaient mis dans la tête qu'on était à l'époque de la révolution sexuelle, donc c'était supposé nous faire plaisir. Moi, je me suis déjà fait pogner dans la rue.
Ah oui.
Puis
ça s'appelle une agression aujourd'hui.
Ça s'appelle aujourd'hui
dans
une agression.
Dans le temps, on disait quoi? On disait, je me suis fait
pogner.
C'est ça. c'est vrai pareil.
Mais
hein?
ça, effectivement, aujourd'hui, la façon de comptabiliser ou de comprendre ces choses-là a changé. Mais moi, je t'avoue que quand j'ai lu le texte du Devoir, j'ai été un peu agacé. On ne peut pas être contre la vertu et dire je me fous là de c'est pas ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné là le féminisme a pris une tournure à un moment donné que j'appelle victimisant ou la victimite et on voit des horreurs partout. On voit tout est une agression. je veux dire, c'est pas vrai. Quelqu'un qui se fait violer avec un couteau sur le bord de la gorge, puis quelqu'un qui se fait siffler dans la rue, hey, m'excuse là, c'est pas la même chose. Et des fois, quand on écoute certaines militantes parler de ça, c'est comme si on était toutes sur le même. Puis ce papier-là dans le Devoir et cette étude universitaire, apparemment la première sur le harcèlement de rue, écoute, c'est pas sérieux. Il y a 19 personnes qui ont participé à cette enquête-là. 19! Puis après ça, on leur fait dire « Montréal n'est pas sécuritaire pour les femmes. » Hey, il y a quand même bien un bout.
19? Ah oui?
Oui!
Ben là, on m'a dit comme toi, là, les chantiers...
Je veux dire, franchement, ton étude, là...
C'est parce que, ça vaut quelque chose, là. On n'est pas en train de dire que ça vaut rien. Non, mais de là, tu peux pas partir d'un échantillonnage aussi minime puis généralisé... de cette façon-là, là. Non, ça, c'est certain, là.
C'est surtout quand c'est quelque chose d'aussi fin. Il y a des cas où c'est clair, net et précis. Bon, mon cas, quand j'étais petite, c'était... Mais quand on est rendu à s'inquiéter et à voir que quelqu'un qui vous regarde avec un regard plus insistant, ben, il va peut-être vous agresser. Mais là...
Là, tu trouves qu'on va trop
là,
loin.
Là, je trouve
ça,
qu'on est...
Je trouve que c'est un féminisme, quoi, qui... T'as l'air d'utiliser le mot
victimaire.
Ben, écoute, je vais te dire de quoi, là. Puis là, quitte à me mettre dans le trouble, là, ça sera pas la première fois. Mais j'aurais
bon
pas... Non, mais j'aurais pas osé dire ce que t'as dit, parce que moi, je suis un gars, évidemment. Fait que moi, je veux dire, comme gars, là, faut marcher serré, là. Faut faire attention. Mais, tu sais, quand tu dis... Il y a un courant féministe qui met le sifflement, mettons, ou le regard insistant dans la catégorie des agressions, au même titre que d'autres agressions qui, elles, sont violentes.
Et qui existent, là.
Et violentes dans le sens où, parce que, bon, quelqu'un pourrait dire, oui, mais Bernard, un regard insistant, c'est une forme de violence. Très bien, correct. Mais je parle de violence physique. Là, je parle de quelqu'un qui te menace au couteau, qui te blesse dans ton intégrité physique. Tu sais, tu saignes. T'es violé de force. Tu sais, bon, alors, je suis content que tu mettes ça sur la table dans le débat parce que par moment, j'ai effectivement l'impression qu'il n'y a plus de nuances et qu'il n'y a plus comme de... Puis tu sais, je suis pas en train de dire que le regard insistant puis les mots cochons dans la rue, c'est acceptable. Pas ça que je dis, pas en tout, là. Je veux bien, tu sais, il faut que je sois clair. Mais... De dire à quelqu'un, t'es donc ben pitoune, toi, puis de prendre quelqu'un puis de la violer, c'est pas la même affaire. À un moment donné, il faut quand même faire la part des choses. L'un et l'autre ne sont pas acceptables, mais l'un et l'autre ne sont pas de la même importance.
C'est important. Il faut le dire.
De la même gravité, tiens, de la même gravité. Soyons plus précis, de la même gravité.
Parce que, de toute façon, plusieurs fois, je donne cette expression-là, mais je trouve que c'est tellement vrai. Parce que quand tout est une agression, plus rien n'est une agression, parce que ça devient la norme. Alors, il faut faire très attention avant, à mon avis, d'aggraver ou de pas être capable d'avoir le discernement de voir quand est-ce que c'est au point où tu appelles la police, puis au point où tu tires la langue, tu sais. C'est pas pareil. Puis je pense j'ai comme l'impression des fois qu'on pousse un peu les femmes dans cette direction. Écoute, même dans ce papier-là, on dit que les transports en commun à Montréal sont pas sécuritaires. Je veux dire, qui allait voir les statistiques, par exemple. Toi, t'as vécu à Mexico.
Hey boy.
Tu sais ce que c'est, la violence urbaine, hein?
Oui.
Bon. C'est ça. Alors,
Quand ta blonde est obligée d'aller mener les enfants à l'école avec un garde du corps, là, ça naît de l'insécurité.
Oui, ça, exactement. Puis je comprends qu'on veuille garder, tu prends le mot insécurité. Je suis tombée sur une phrase de Laura-Julie Perrault de La Presse qui écrivait un éditorial là-dessus et qui nous rappelait que la sécurité, c'est la liberté.
Oui.
Et il faut pas oublier ça. Mais en même temps, on ne peut pas combattre tout en même temps, avec la même intensité et avec la même utilité non plus. Faut un petit peu regarder ce qui se passe du côté des priorités.
Alors, j'ai des textos là qui reprennent un peu ce qu'on dit. Il y a quelqu'un qui dit c'est simple, il y a une différence entre un cabochon et un agresseur.
Ouais.
Quelqu'un d'autre dit faut pas qu'on confonde, dis-je, le manque de respect avec l'agression. Certaines te félicitent pour ton franc-parler et disent qu'elles partagent ton opinion. Lise, merci.
Grand plaisir.
On se reparle demain?
J'espère.
Ah ben oui, c'est sûr. Ça. C'est un rendez-vous, Lise Ravary. À demain.
À demain, bye-bye.
OK. Après la pause, on va parler de cette poursuite qui s'est terminée, poursuite policière, qui s'est terminée en carambolage. Mais ça a duré longtemps, là. Puis ils ont été obligés de l'arrêter avec une espèce de tapis de clous, là. Moi, quand j'ai vu ça un matin, puis l'équipe, on discutait, on préparait l'émission, puis on s'est posé la question, quand le gars décide comme ça, qu'il échappe aux policiers, puis il faut organiser une opération pour l'arrêter, comment ça s'organise une poursuite policière qui se doit évidemment d'être sécuritaire après la pause?